Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je suis désolé, mais je ne peux pas m'exprimer là-dessous. Comme le dit un proverbe italien, ça ne porte pas chance.
Qui?
Li Kangwin. Est-ce que vous comptez le faire?
Un nouveau joueur, un nouveau joueur. Lui, Kangwin, je ne le connais pas. Mais Kangwin, ici.
C'est Enrique qui a déjà un boulard surdimensionné. Il est passé en montgolfière. La période Arsenal jusqu'à Nantes, on a atteint des sommets.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after continue jusqu'à minuit en direct sur RMC, en direct également sur la chaîne Afterfoot TV. L'after, première radio de France le soir avec Daniel Riolo qui est là. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Kevin Diaz avec nous ce soir. Salut Kevin.
Salut à tous.
Toujours leader de son groupe de National 2. C'est malade. Et Jean-Louis Tour, de retour de Rennes. Salut Jean-Louis.
Salut tout le monde.
Kevin, il faudrait dire dans une autre dimension et puis c'est tout. Et puis ça sert à rien.
Il faut quand même noter que c'est pas moi qui parle de mon club.
Ah, c'est pas toi, mais t'adores tellement ça qu'on.
Ah non, non, moi je ne réclame absolument
dans
pas.
Non, mais bon,
plus d'exposition.
Dans une autre dimension.
On a reçu un appel de la mairie de Saint-Maur, ils disent qu'ils bénéficient d'une com' incroyable grâce à l'afterfoot.
Ouais, c'est complètement fou, ouais. Ouais, en tout cas, il y a du monde au stade.
Le parcours est incroyable.
Oh, il y a du monde.
Ah, vraiment, il y a du monde.
Il y a des mecs qui viennent et disent, c'est toi Kevin Diaz et tout.
Ah, non, mais il y a même des gens qui suivent le club depuis qu'on en parle beaucoup sur RMC.
Depuis son retour des Pays-Bas, la dimension de Kevin. Ah. C'est une histoire, en fait. Moi, je pense que ça mériterait un livre.
Moi, je pense qu'on devrait faire un livre.
Une bio.
Qu'est-ce qu'il y a comme gars qui médiatiquement ont explosé comme ça à la face de la France? Toi, un peu comme Kevin.
Walid Acharchour.
Genre l'Adidas Lozano avec Calais.
Valide, voilà,
c'est comme ça.
Ah, ouais. C'est trop bref, là, on n'est pas du tout.
Ouais, il a vite disparu, Lozano.
Ah oui, bah, Lozano, ça, je sais pas ce que.
Là, on est dans quelqu'un qui va s'installer. On ne trouve pas pareil.
Bon, après, on peut quand même dire qu'il y a des clubs de Ligue 2 ou nationale qui travaillent aussi bien, voire mieux, et dont on ne parle jamais. C'est quand même une grande injustice. On parle à fond d'une équipe de N2 juste parce que c'est Kevin.
Antoine Varnier, qui est notre producteur.
Le directeur sportif, on en parlera peut-être.
Parce que ça s'appelle un destin.
Ouais, Antoine Varnier, qui est notre producteur ce soir, il me dit que ça ressemble à la trajectoire de Loana. Tu vois, on la connaissait pas, elle a explosé comme ça.
Ouais, j'aurais plutôt dit.
Enfin, je ne crois pas que Kevin, ça terminera dans le caniveau.
J'ai pas commencé dans une piscine en plus.
Ouais, non.
C'est vrai, t'as pas commencé dans une piscine. Bon.
Non, on est ailleurs. Laisse-moi tranquille.
L'événement ce soir dans l'After, les gars, c'est le retour de la Ligue des Champions, bien sûr, cette semaine. On va se régaler avec la première journée de la phase de poule sur 3 jours. Demain, mercredi et jeudi, Marseille, Paris Saint-Germain, Monaco démarre cette semaine. L'OM est-il armé pour sa campagne qui démarre demain à Madrid? Que peut espérer Monaco? Comment Paris doit-il gérer sa phase de poule? Bref, on va se poser toutes ces questions-là. Et en plus, Luis Campos était dans Rotten sans flamme tout à l'heure. Donc, on va réécouter les moments les plus importants.
Beaucoup de moments intéressants.
Voilà. Mmh. Ce sera dans quelques minutes, bien sûr. Après 23h, on reviendra sur la réaction de Liam Rosenior suite à la fronde des supporters strasbourgeois. Très en colère, Rosenior. On ne l'avait jamais vu comme ça, mais c'est intéressant de l'entendre et de réagir à cette histoire. D'autant que j'ai les infos à vous faire partager.
Ah bah,
et que l'after a été un précurseur sur ce dossier, quand même, Gilbert.
Ah bon?
Bah, bien sûr.
Oui, bah, on suit Strasbourg depuis des années.
Non, sur la multipropriété, c'est méfait.
On y reviendra tout à l'heure. Et ses avantages aussi, il y en a aussi.
Ouais. On en voit, oui. Ah oui, mais il faut dire les deux. Ouais, quand je t'entends, je ne vois que les avantages.
Bah, quand je t'entends, je vois que les problèmes.
Bah, je suis là pour équilibrer.
On veut dire qu'on est complémentaires. Et puis Jean-Louis veut donner son avis, enfin ses idées plutôt, pour améliorer l'arbitrage.
Ah.
Ouais.
Ouais.
Messieurs Landreau, Gauthier et les patrons de l'arbitrage français, soyez à l'écoute.
Bon, sans oublier le conseil d'administration du jour de la Ligue, important. Pablo Longoria qui revenait de suspension, qui réintégrait son groupe d'amis, ou pas d'ailleurs, du conseil d'administration.
Il n'y a plus beaucoup d'amis là, dans les présidents. Là. Je pense qu'ils n'y arriveront jamais en fait, à penser collectif. Mmh. C'est plus fort qu'eux, c'est comme ça. C'est que des petits intérêts, c'est chacun dans son coin. Le lundi, ils sont tous d'accord, le mardi, ils se tirent dessus. Ils arrivent en conseil d'administration, c'est la guerre. Écoute, tant pis. Nous, on s'en fout, hein. Nous, ça ne nous empêche pas de regarder la Ligue 1. S'ils veulent se mettre des balles dans le pied tout le temps.
Bon, les infos tout à l'heure, bien sûr.
Pour attraper l'autre, malheureusement.
32-16 pour tous ces sujets. Et puis, n'oubliez pas le nouveau numéro WhatsApp d'RMC et de l'After. Donc, le 0-612-424-424. J'ai la tablette devant moi pour lire vos messages. Donc, n'hésitez pas à nous les envoyer. Voilà, ils sont là. Et puis, qu'est-ce que j'ai l'autre? Bah, j'ai de la Ligue 2. Bah oui, la Ligue 2 du lundi. Guingamp, Montpellier, Xavier Grimaud, bonsoir. Salut Gilbert, salut l'after. 63 minutes de jeu à Roudourou et 1-0 pour l'en avant Guingamp. C'est compliqué, hein, le retour en Ligue 2 pour Montpellier qui pour l'instant n'a qu'une victoire et pour enchaîner deux défaites et deux nuls. Donc ce serait scotché avec 5 points après la saison Cata en Ligue 1. Ils ont du mal à se mettre au niveau de la Ligue 2 et Guingamp est devant après le but de Donatien Gomis en première période. C'est mieux quand même ce que montre Montpellier en deuxième, mais il n'y a pas beaucoup de jeu avec un TJ Savanier qui est toujours scotché sur le banc. 1-0 donc pour Guingamp, il reste 27 minutes Gilbert.
À tout à l'heure et de la Ligue 2 on passe à la Ligue des Champions. De Guingamp on part à Madrid, c'est ça la magie de l'after. Florent Germain est sur place à Madrid demain, c'est Real OM bien sûr. Salut Florent.
Salut les amis.
Salut à tous.
Bon.
Todo bien.
Et toi?
Ça va, écoute. Nous, ça va, c'est ça. Ça va, tu dois être un petit peu tendu, là. Tu fais ton retour en Ligue des Champions, quand même.
Non, non.
T'as mis
aucune pression.
T'as mis des affaires propres dans la valise, tout. C'est...
Ouais, ouais, il y a de belles chemises.
Bah oui, il faut, c'est un minimum.
Qui reste repassé malgré le voyage.
Pour l'instant, il profite de sa soirée espagnole et après, il basculera sur le match.
Eh, moi, j'attends de voir comment va être habillé des Zerbi, quand même. Hein. Ah, c'est important, Ligue des Champions.
Oh, ça devrait être costume. T'as raison, on aurait pu poser la question.
Est-ce qu'on l'a déjà vu en costard?
Mais alors peut-être que je me trompe, Flo, corrige-moi immédiatement.
Une fois ou deux, je crois.
Il me semble l'avoir entendu dire qu'en Ligue des Champions, il ferait autrement, il s'habillerait autrement. C'est juste, je me trompe ou...
Non, je pense qu'il l'a évoqué, effectivement, mais j'ai souvenir d'un match, je sais plus si c'était contre le PSG. Enfin, il y a eu un match où il était encore plus apprêté et mieux habillé. Faudra que je fasse quelques recherches. Et nos fidèles supporters de l'OM qui nous écoutent peut-être vont nous aider. Mais je crois que ça lui arrivait une fois de casser son style habituel.
Bon, c'est pas le plus important à vrai dire.
Non.
Allons voir. Quand même en costume. J'aime bien son petit style pantalon, petit pull, petit training comme ça. Donc, moi, je pense que faut pas changer qui tu es. Faut rester toi-même, Roberto. Comment dire en italien?
Les infos concernant le match de demain, est-ce qu'il faut que tu nous donnes ça? Est-ce que tu as une idée précise de la compo de départ déjà?
Écoute, déjà il y a des absents, faut le rappeler. Il y a Aguerd qui malheureusement c'est un gros coup dur. Subit un protocole commotion, il a pris un coup à la tête. On l'a vu d'ailleurs, il disait contre Lorient, j'ai la tête qui tourne, ça va pas. Il a effectivement subi un choc et donc il est forfait. Est-ce qu'il sera forfait également pour le match contre le PSG? C'est pas impossible parce que normalement ce protocole doit durer une semaine à la date du match, donc de vendredi à vendredi ça peut passer, mais il va pas s'entraîner ou en tout cas très peu, il va se reposer, donc voilà, parenthèse refermée, il est peut-être incertain encore pour Paris. Donc Aguerd absent, Ahmed Junior Traoré également blessé à la cuisse, donc la compo marseillaise ça pourrait donner demain Rouli dans le but, trois axios, Balerdi entouré de Pavard et de Medina, Murillo et Wea sur les côtés, Højbjerg et Angel Gomez devant la défense. J'ai un petit doute pour le troisième du milieu de terrain. Est-ce qu'il va y avoir un choix offensif? On avait eu quelques retours en ce sens, comme quoi Roberto De Zerbi voulait aller vraiment jouer à Madrid pour pas subir. Donc ça voudrait dire Unadir ou Pachao. On l'a senti un petit peu juste Pachao pour jouer d'entrée, peut-être dès le match de demain. Sinon, Kondogbia a fait plutôt un bon match. Mais alors pour le coup, ça serait plutôt pour renforcer le milieu de terrain. Ce serait pas du tout la même. Donc permettez-moi le petit joker pour le troisième milieu de terrain. Et sinon Greenwood et Aubameyang. Guiri souffrait encore de l'épaule ces dernières 48 heures. Donc a priori il sera dans le groupe. Il est en tout cas du voyage, mais trop juste pour débuter.
C'est pas du tout la même chose. Troisième Kondogbia qui serait un homme de plus au milieu, ça mettrait en gros Aubameyang et Greenwood comme deux attaquants finalement.
En fait, ça décalerait Angel Gomez, qui jouerait un peu plus haut.
Par Wea d'un côté.
Et Murillo de l'autre.
Et Murillo. Ça n'a rien à voir avec l'idée que d'un coup, on aurait Pacho qui ferait ses grands débuts avec Aubameyang. Donc, en fait, on aurait une ligne de trois devant. Ça change complètement dans l'idée de départ de ce que pourrait être l'OM. On ne parle pas du tout de la même chose. Kondogbia Pacho, c'est pas du tout pareil.
Il y avait une possibilité, si Aguerd avait pu tenir sa place, de garder cette défense à 3. Je pense honnêtement que Balerdi, bon, et d'ailleurs il y a eu un petit échange avec Roberto De Zerbi à ce sujet, parce que j'ai posé une question à Balerdi. Je crois que Roberto De Zerbi au départ n'a pas compris ma question, donc ça me l'a un petit peu agacé. En gros, il croyait que je disais à Balerdi qu'il était sûr d'être titulaire parce que Aguerd n'était pas là. Ouais. Mais lui a compris qu'en gros, si Aguerd avait été là, Balerdi ne l'aurait pas été. Et je pense que le plan de départ était peut-être de mettre Balerdi quoi qu'il arrive avec Aguerd et Pavard, et peut-être de décaler Medina sur un côté pour renforcer le côté gauche.
Moi j'aime bien essayer de me mettre à la place des gens, et donc en l'occurrence de Zerbi. Et je dois dire que au moment où l'OM démarre la Ligue des Champions, c'est une telle inconnue. Il y a tellement pas de référence, on sait tellement rien du rendu que cette équipe peut donner face en plus à un Real qui est pas le Real du début de saison de l'année dernière, qui était dans sa fin de cycle avec Ancelotti, qui avait pas forcément avant le match semblé prenable, mais qui ensuite, au vu de la rencontre qu'ils avaient livrée en Ligue des Champions, avait semblé prenable, et on avait bien vu qu'ils étaient pas au point. Là, ils ont l'air quand même beaucoup plus au point avec nouvel entraîneur. Il s'agit pas de démarrer par une contre-performance ou d'être à moitié bon, quoi. Dans l'idée qu'ils vont vouloir être bons. Je m'appelle De Zerbi, je suis en face. J'ai aucune référence. Je sors d'un match en bois contre l'Orient où l'arbitre a fait en sorte qu'on soit 11 contre 10. On a zéro référence.
C'était quand même le règlement.
Je sais pas. Oui, néanmoins, on s'est retrouvé à 11 contre 10, donc ça m'enlève en plus une référence. J'ai pas fait un vrai bon match. Je sais pas où je vais, je suis dans l'inconnu total. Je me mets à sa place, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je prends une option. On met un homme un peu plus costaud au milieu, Kondogbia, qui a quand même une expérience, à qui il est arrivé en Ligue des Champions de faire une poignée de bons matchs quand même.
Et qu'il aime beaucoup, Daniel. C'est aussi pour ça que la donnée Kondogbia est quand même possible.
Je prends un risque, parce que demain, pour le coup, ça sera un vrai risque d'envoyer trois attaquants. En plus, un Pachao qui n'a pas joué depuis le début. On ne sait pas tellement comment il va se comporter. Alors, je vais au bout du « je me prends pour lui ». Je pense que je mets Kondogbia.
Mais au-delà du choix
c'est
de joueur,
pas très ambitieux du coup.
Kondogbia, il a quand même beaucoup d'expérience.
Oui, j'ai envie de dire ça.
Ouais, non, mais au-delà du choix de joueur, c'est important
que tu décris, Daniel. Moi, ce qui m'intéresse dans ce Diflo, c'est la stratégie globale. Est-ce que, comme il l'a laissé entendre, De Zerbi va aller les chercher haut, le Real, à Bernabéu, sachant que la gestion de la profondeur de l'OM, c'est pas du tout leur avantage, et qu'Mbappé, il a des jambes énormes pour justement prendre cette profondeur. S'il fait ça, franchement, ce sera un vrai choix courageux.
Je pense pas.
Il y a une différence entre jouer haut et faire du jeu. Je pense honnêtement que, enfin, je te suis, Jean-Louis, c'est-à-dire que ce serait suicidaire et de laisser de mettre un bloc haut, assez haut, avec notamment les soucis qu'a Balerdi récemment pour jouer la
défense agressif. La ligne
notamment,
donc ils vont mais ça sert pas à rien de partir à l'abordage. Non, l'important, c'est même si t'as un bloc à 30-40 mètres.
Non, mais dans la
super agressif, quoi qu'il.
Dans la forme où est en ce moment Kylian Mbappé, en tout cas avec le Real encore le week-end dernier, c'est impossible. Mmh. C'est impossible de défendre à la ligne médiane. C'est physiquement impossible.
Surtout pas pour.
À la rigueur, t'aurais pris Ordonez, qui apparemment va à 2000. Mmh. Pourquoi pas? Mais pas avec Balerdi, pas avec même Pavard, pas avec Medina et avec Aguerd, ça aurait pas été possible non plus. Impossible parce qu'il y a, on parle quand même beaucoup d'Mbappé, mais il y a aussi un certain Vinicius hein, quand même qui peut accélérer sur 40 mètres, très très difficile à rattraper. Donc honnêtement, les Marseillais n'ont absolument aucun intérêt à jouer un bloc haut. Il faut jouer un bloc médian bas. Il faut attendre cette équipe du Real parce que c'est comme ça qu'ils sont en difficulté. On a vu encore Huysen prendre un rouge sur une faute tirage de maillot, comme j'ai dit à Flo ce week-end. Tirage de maillot, voilà, c'est carton rouge direct. C'est comme ça, c'est le règlement. Et ensuite, quelle va être l'animation par contre?
Il est suisse, Kevin, ou quoi, avec ses règlements, il arrête pas des.
Non, non, mais je t'ai entendu hier dire que l'arbitre a faussé le match. Pas du tout.
Oui. Vous expliquez sur hier.
Il y a beaucoup d'auditeurs, il y a beaucoup d'acteurs du foot qui ne connaissent pas les règlements. Si t'es dernier défenseur, surface ou pas surface, et que tu fais une faute, alors dernier défenseur, on a compris, annulation d'une occasion de but. Si tu fais une faute en taclant, l'arbitre considère que tu jouais le ballon.
En fait,
si
c'est pas compris. Alors,
si tu tires le maillot avec le bras, l'arbitre considère que tu es là uniquement pour faire faute. C'est carton rouge et pénalty parce qu'il n'y a pas d'intention de jouer le ballon.
Tu parles de quoi là?
Je parle de l'action de Marseille contre Lorient, fait qu'il joue à 10 et du coup il n'y a pas de match.
Je vais être précis sur cette histoire que en gros non, mais sur les cartons et ce que je pense de ça en général, parce que je l'ai répété plusieurs fois depuis le début de la saison. En fait, le problème, c'est que c'est pas que je ne connais pas le règlement, je le connais.
C'est pas que tu le connais pas, mais
en fait le problème, c'est que ça regarde que moi. Je demande pas, tu vois, c'est juste, je conteste le règlement. En fait, il y a eu plein d'évolutions dans les règlements du foot. Dans les années 80, on les donnait pas trop. Il y a eu la passe en retrait. Et très souvent, les évolutions de règlement ont été faites à des moments où on voulait rendre le jeu plus spectaculaire. Moi, je pense qu'on a abusé dans l'évolution d'un règlement strict en donnant plus de cartons rouges pour les motifs que tu viens d'évoquer. Je le connais, le règlement. Je suis pas pour qu'on ne respecte pas le règlement. Je suis pour qu'on change le règlement. Qu'on ait fait ça pour rendre les matchs plus spectaculaires dans le sens plus de buts. Parce que comme on est dans un monde de stats et tout, oui. Ouais, il y a 2 buts de moyenne par match, il y a 3 buts de moyenne par match, et immédiatement on se dit c'est plus spectaculaire. En fait, on veut vendre du foot parce qu'il y a la concurrence de plein d'autres sports, oui, activités sûr. Et tout. Donc on a fait cette évolution-là. Moi, je conteste juste cette évolution. Je dis pas que l'arbitre s'est trompé quand il a fait le truc de Lorient, ou que hier il s'est trompé sur Morton ou Coquette. Moi, je dis juste que le règlement comme ça, j'en ai marre. Il me plaît pas. Ça m'intéresse pas de voir des matchs à 10 contre 11. Je dis pas. J'ai compris le règlement.
Ouais. Moi, je dis là, juste pour mettre que... le carton orange de Roland
Courbis. Voilà, non. Moi, je suis pour qu'on. Tu vois, c'est vraiment. Je prêche dans le vide. Je sais qu'on va pas revenir en arrière. Ces cartons rouges me gonflent. Comme j'ai dit hier, Morton, je lui donne pas rouge, Rouault, je lui donne pas rouge, alors que le règlement impose que Rouault
soit dehors direct. Je peux t'entendre, mais il y a des actes.
C'est ce qu'a dit la Fédé aujourd'hui, d'ailleurs. Moi, à la place des Lyonnais, mais je l'ai hyper mauvaise.
Oui, mais
Rouault, ils ont seulement.
Là, vous faites exactement comme les journalistes du Real de Madrid aujourd'hui. On parlait de tout sauf du match.
Il y a jamais pire que le Real, Flo.
C'est un truc de fou.
Oui, mais il y a quand même des acteurs de foot qui disent, ah non, il n'y a pas carton rouge parce que c'est la double peine. Mais la double peine, ça n'a rien à voir.
Je le répète, je suis pas sur cette ligne-là. Ouais. Moi, je suis sur la ligne que ce football-là me gonfle. De voir des cartons rouges connement comme ça donnés après 10 minutes pour un tir à celui de Lorient, je trouve ça débile. Et au final, je pense que c'est même contre-productif pour l'OM. Ok, ils avaient besoin de gagner.
Oui, c'est sûr.
Ils savaient à ce moment-là que le match, il était plié. Oui, ils allaient avoir pénalty, but 1-0. Ils allaient gagner le match. Moi, si je suis deux armées, je joue encore à me mettre à sa place. Ouais, j'avais besoin des 3 points parce que j'ai besoin d'être un peu en confiance et tout. Mais derrière, c'est brouillard. Je sais pas ce que vaut mon équipe. Moi, j'aurais aimé jouer un match à 11 contre 11. Tu sais, ça me rappelle le truc où on avait rigolé ensemble.
On revient à Marseille,
dans
il y a
le match amical. Tu sais, c'était quoi ce match amical avec le PSG? On avait trouvé ça. On n'était pas ensemble. Si.
Le PSG.
Non, tu sais, le Monaco Inter.
Ok, ouais, Monaco Inter.
Le 8 août.
Ouais.
Tu sais, le match de gala.
Ouais, où il y a rouge.
L'arbitre français avait donné un carton rouge. Et Uther était le voir. Il dit, oh, on est là pour prendre des enseignements sur un match et tout. Qu'est-ce que tu vas mettre un carton rouge? Tu vois, on est en train de dévier dans la tête des arbitres à dégainer des rouges. C'est juste, moi, la vision du foot que je conteste. Pas le règlement. Le règlement, je sais quand est-ce qu'il s'applique. T'as raison. Le Lorienté doit être dehors. Rouault, pour le coup, c'est une erreur. Il doit être dehors. Morton, il doit sortir. Je sais tout ça. Je veux juste que le foot, il soit pas comme ça. Ça me fatigue. Ces matchs à 10 contre.
Alors, juste, si tu voulais parler d'arbitrage, donc on en parle forcément tout le temps à Madrid, hein, c'est le sujet numéro 1.
Voilà, Madrid, ils sont un ridicule.
Flo, vas-y, avant le match.
Non, mais je faisais un petit clin d'œil parce que ce qui nous a frappé, nous, journalistes français ou qui suivons l'OM, c'est que, bon, il n'y a eu aucune question des journalistes espagnols sur le club adverse. Des fois, nous, quand on est à Marseille, à la Commanderie, il y a, enfin, je ne veux pas être méchant avec des clubs comme Lorient ou des clubs un peu moins huppés, bah, c'est vrai que des fois, nous, on a ce petit défaut-là de ne pas poser de questions sur l'adversaire, donc on ne parle que de l'OM, des petites polémiques internes, et en fait là on se rend vraiment compte que en Espagne, que ce soit les supporters du Real Madrid ou même les suiveurs du Real, ils s'en moquent complètement de l'OM. C'est-à-dire qu'à Roberto De Zerbi, il n'a été question que des polémiques arbitrales du week-end dans Liga, même à Roberto De Zerbi, hein, du Bernabéu, est-ce que Madrid est favori pour la Ligue des Champions, et Mbappé comment il va et comment vous le trouvez, etc. Et donc il était question de tout, sauf de l'adversaire. Même pas une petite question, hein. Et d'ailleurs, ça a un peu agacé quelques confrères qui, ce matin, à Valdebebas, qui réclamaient le micro et qui voulaient poser des questions à Xabi Alonso. Donc, c'est pour ça que je faisais cette petite comparaison avec votre débat sur l'arbitrage qui, effectivement, a beaucoup occupé les Espagnols ces derniers jours.
Flo, on revient de te voir dans quelques instants. On aura Morgane au 32-16 parce que maintenant, il faut qu'on parle de la suite pour l'homme du match de demain, de la façon dont les supporters le voient. Et ensuite, on passera au PSG avec.
Qui seront nombreux en plus, hein.
Qui était dans Rotten sans flamme tout à l'heure. À tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.
Gilbert Brisbois.
Il est 22h21, Kevin Diaz est là, Daniel Riolo, Jean-Louis Tour et Florent Germain qui est à Madrid demain soir à la même heure. On sera en plein match. En plein Real OM, aux fiches de gala. C'est pas souvent Real OM, enfin les matchs comme ça pour l'OM là.
Ah non.
Il y en a eu 4 dans l'histoire.
Quel est le dernier grand match?
Le dernier c'est 2012 en phase de poule, il me semble.
Non, 2009-2010. Il y a 2009, eu la défaite 3-0. Vous vous rappelez du gros tacle de Diawara sur Cristiano Ronaldo?
Ah oui.
Il touche le ballon, mais. Oui, il en a beaucoup parlé. Et oui, défaite 3-0 à l'aller et défaite 3-1 au retour, je crois, au Vélodrome. Oui, c'est ça, 3-1 au retour.
Morgane est là au 32-16, supporter de l'OM. Salut Morgane.
Bonsoir, bonsoir tout le monde.
T'es excité, t'es à bloc, tu comptes les heures?
Ouais, non, franchement, excité par le retour de l'OM en Ligue des Champions, oui, et en plus à Madrid, c'est super. Donc oui, oui, on a hâte, mais par contre, voilà, après, moi, je suis objectif, et j'en attends pas grand-chose, on va dire, niveau résultat. Malheureusement, il faut aussi considérer que l'OM a joué deux fois la Ligue des Champions sur les 10 dernières années en ayant des résultats pas très glorieux, qu'on construit petit à petit, qu'en plus de ça, on a recruté sur le tard, sur le mercato, donc... prendre du plaisir et tout, mais voilà, après je pense que quand le match va commencer, je m'attends à plus souffrir que prendre du plaisir, malheureusement. Et voilà, moi ces émotions-là, je veux les vivre chaque année. Maintenant, c'est ma priorité, c'est d'y retourner. C'est sur les matchs à la maison où on va essayer de prendre des points et essayer de sortir de cette poule, de ce nouveau format. Mais moi ce que je veux avant tout, c'est y retourner. Je prends vraiment l'exemple de Lille qui fait un quart de finale, qui s'est régalé l'année dernière, mais qui finit cinquième et qui repart sur un nouveau projet, etc. Et nous, ça nous ferait encore plus mal, je pense, que Lille avec les joueurs qu'on a pris. Donc, moi, c'est du bonus, ce match-là. Ça fait trop plaisir qu'on y retourne, mais j'ai pas envie que ça soit un événement juste comme ça et qu'on la voit plus encore pendant 4-5 ans.
Ce qui est quand même étrange, c'est que t'as un peu le même discours que les dirigeants marseillais,
bah, c'est ça, oui.
qui disent qu'en fait, presque, bon, peu importe ce qu'on fait cette année, ce qu'on veut, c'est y retourner l'année prochaine.
Mais parce que, Kevin, en fait, on en a marre que, si tu veux, à chaque fois qu'on a
profité,
joué, des champions. Oui, mais
je t'entends, hein, moi, je comprends ce que tu veux dire, mais j'ai envie de te dire là, je dis pas que tu dois y aller, l'affaire au fusil.
T'as tellement vécu 3-4 années de galère à chaque fois qu'on l'a rejoué, parce qu'on prend des risques financiers, et donc du coup, on est obligé de vendre tout le monde.
Qu'est-ce que tu voudrais faire alors? Je comprends pas ton point de vue finalement.
Y retourner pendant 2-3 ans avant de vraiment avoir des ambitions. Tu veux dire
te stabiliser avant d'avoir des ambitions?
Eh ben oui, de toute façon, je suis obligé.
Mais ça veut dire quoi, avoir des ambitions, pas d'ambition? Tu voudrais qu'ils y aillent demain, mais qu'ils y aillent en touriste? Je comprends pas le truc, en fait.
Non, qu'on prenne du plaisir. Non, je parle pas de touriste. Qu'on y aille à fond, évidemment.
Mais de toute façon, il n'y a pas l'ambition de l'OM, c'est quoi? De toute façon, il n'y a pas d'espoir de faire quelque chose. Donc, c'est de faire au mieux dans les 8 matchs qui te sont proposés, de finir forcément. Bah, tu sais, le truc, en fait, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que de toute façon, l'OM, c'est pas une équipe comme les autres en France. Donc, le problème, c'est que oui, il faut pas péter le carafon, imaginer des trucs de fou et tout. Mais à partir du moment où t'as Lille, t'as Brest, Monaco l'année dernière, qui sont sortis de la poule, de la grosse poule, je sais même pas comment on appelle ça, tu vois, enfin bon, qu'on fait 24 dans les 24 premiers, il serait évidemment inconcevable, même si t'es pas prêt, même si ça fait longtemps que t'es pas venu, même si il y a, en fait, tu peux prendre tous les mêmes si. Il serait inconcevable que l'OM ne soit pas dans les 24. Pourquoi? Parce que trois clubs à beaucoup moins grande notoriété, moins de moyens, moins de tout ce que tu veux, l'ont fait l'année dernière.
Ouais, mais moins de pression aussi,
évidemment.
Et on peut ajouter aussi que certains reviennent. Monaco revient en Ligue des Champions, ça ne les a pas empêchés de finir troisième. Et voilà. Lille, ils finissent à égalité avec Nice. Ils y étaient quasiment aussi.
Donc tu dois pouvoir, quand t'es l'OM.
Ils y sont pas, quasiment. Oui, mais ils sont pas.
Mais ils ont été à la lutte, c'est pas la Ligue des Champions qui les a empêchés de ramassailler
pour ce qui est vraiment ennuyant, c'est qu'en fait, l'OM arrive en Ligue des Champions, comme vient de dire Daniel, dans le brouillard le plus total. C'est ça le problème. Parce que quand tu sors d'une belle saison où tu finis deuxième et où tu as un minimum de continuité, eh bien là, tu peux te projeter en disant voilà, on a nos bases solides, on a Rabiot, on a un tel, on a rajouté des joueurs à Gerd, Pavard, mais on les a pas eu le 30 août, on les a eu le 15 juillet ou le 20 juillet, et là, on a déjà travaillé, ça fait déjà 5-6 semaines qu'ils sont ensemble, et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que là, demain, tu t'en viens à regretter. Moi, personnellement, je trouve que c'est une catastrophe que Naïef Aguerd ne soit pas là, alors qu'il y a une semaine, on ne savait même pas s'il allait être là ou pas.
Moi, je suis sûr que Balerdi va faire un bon match. Hein.
Ah bon?
Mais,
peu importe.
Comment tu peux savoir?
En tout cas, Kevin, j'ai des arguments, Flo. Juste pour penser que Balerdi va faire un bon match. Bon, moi, je serais peut-être ridicule demain soir, on verra. Mais je pense que déjà, si l'OM joue assez bas, il n'aura pas ses problèmes de profondeur. Je pense qu'il va avoir, pour la première fois, Medina Pavard devant lui, ça va lui faciliter la vie. Et en plus de ça, il n'y aura pas de problème de concentration parce que le contexte, Ligue des Champions, t'es à Bernabéu, match où tu peux pas te rater, etc.
Enfin,
matchs qu'il peut avoir une
sorte de. Il peut prendre aussi un rouge à la 18e, c'est possible.
Bah, je crois pas, mais bon.
Non, pour aller dans le sens de ce que disait. pour aller dans le sens de ce que disait Kevin, c'est vraiment le discours en interne. Alors ça veut pas dire que Daniel, ils y vont en claquette et qu'ils s'en foutent de cette Ligue des Champions, mais c'est vrai que Pablo Longoria, Mehdi Benatia, Roberto De Zerbi avec ses joueurs, ils ont essayé un peu de dédramatiser toute la pression qu'il peut y avoir autour de l'OM. Attends, je finis Jean-Louis. C'est juste que ils ont quand même le sentiment que c'est en prenant plaisir, en croquant dans cet événement que l'OM va essayer, enfin se lâcher en fait.
Oui, bien sûr.
Parce que en fait, l'OM subit trop la pression de Daniel, tu le répètes souvent et t'as raison, c'est un club un peu différent, c'est-à-dire qu'on lui octroie, on demande trop à l'OM par rapport au niveau qu'a l'OM. Et en fait, ce discours-là, je le comprends vis-à-vis des joueurs, c'est dire les gars, vous avez cravaché, la saison elle a été parfois chaotique l'année dernière, on est en C1, maintenant kiffez et arrêtez de penser que ça va être le drame si on perd à Madrid et qu'ensuite il y a le PSG, etc. Et ce discours, je le trouve bien.
Mais ce discours est bon, la stratégie des dirigeants est tout à fait compréhensible. Moi, c'est plus la position de Morgan, supporter. J'ai l'impression que demain, t'as retour de la Ligue des Champions pour l'OM et t'as pas envie de kiffer. À un moment, quand est-ce que tu kiffes, en fait?
Réponse de Morgan.
Parce que tu nous as dit.
T'as 4000 Marseillais qui ont fait le déplacement et qui sont chauds bouillants.
Demain, je vais souffrir et la priorité, c'est de revenir.
Non, mais Morgan, peut-être que lui, il pense ça, mais tout le monde ne pense pas comme lui. Peut-être que lui, il a une forme d'appréhension. Il a pas envie de se prendre une claque demain. Et j'imagine que les supporters de l'OM, demain, tu vas jouer à Madrid. Ouais, le truc pour ton retour en Ligue des Champions, je pense qu'ils auraient préféré démarrer au Vélodrome contre une équipe moins chevronnée. Pour ton retour en Ligue des Champions, quand t'es l'OM, que tu démarres ta saison, demain ça se termine avec deux buts d'écart pour le Real, tu prends un 3-0, un truc comme
mais
ça.
Que le premier truc auquel tu penses à la veille génial. Ton retour en Ligue des Champions, moi, c'est d'absolument revenir grâce au championnat.
Oui, mais...
à un moment kiff, profite de tes matchs de Coupe d'Europe,
mais
tu verras pour la suite.
Mais ça,
Morgan, il traduit exactement ce qu'est devenu notre championnat. Ce que Kevin a dit beaucoup de fois et que je relève,
pas les supporters, que les dirigeants
pensent comme Morgan,
impose-toi
comme un
balerdi
demain.
On n'est pas obligé de laisser tout infuser.
S'il vous plaît. Déjà, Morgan, réponds à Jean-Louis, si tu veux bien. Et ensuite, Florent aura un mot de conclusion.
Alors, je n'ai pas. Il faut réécouter ce que j'ai dit, parce que je n'ai pas du tout dit de ne pas y aller sans prendre de plaisir. J'ai dit exactement ce que venait de dire Flo juste avant que tu dises ça, Jean-Louis. C'est-à-dire qu'on y va pour kiffer, faire ce qu'il faut. Mais par contre, si tu me demandes si je suis excité dans l'attente de faire un exploit, j'aimerais bien. Mais par contre, quand le match il va commencer, c'est ce que j'ai dit, je m'attends plus à souffrir plutôt qu'à kiffer. Mais par contre, d'aller à Madrid en étant l'OM et tout, d'y retourner, c'est bien. Et quand je te dis oui, moi, ma priorité, c'est d'y retourner, c'est si tu me fais choisir au jour d'aujourd'hui de jouer un huitième et de finir cinquième, ou de pas jouer de huitième mais d'y retourner l'année prochaine, je choisis de pas jouer un huitième, parce que à la fin de ton projet, le projet que tu es en train de te construire là, si à la fin de cette année tu es cinquième, les Greenwood, les Hojbjerg, tu repères tout le monde et tu repars sur un nouveau projet. Et nous les supporters de l'OM, ça fait 10 ans qu'à chaque fois qu'on joue la Ligue des Champions, on se casse la gueule et on remet 4-5 ans à reconstruire une équipe en passant par la conférence.
Ça, je suis d'accord, mais je trouve qu'il y a une tendance générale
continuité là-dedans.
Il y a une tendance général chez les supporters à anticiper, à penser à la suite et pas à profiter du moment présent. C'est juste
là,
ça que vous voulez souligner.
Avant d'aller au Real, tu trembles un peu quand même. Voilà,
tu trembles un peu, Jean-Louis, mais t'es de retour en Ligue des Champions.
Je suis un psychologue maintenant.
Tu vas pas au Dynamo Zagreb
essayer de kiffer.
Bah oui,
l'instant présent.
Mais oui, que les dirigeants aient ce raisonnement, ok, que les supporters kiffent.
Aujourd'hui,
pourquoi ils répètent ce que disent les dirigeants? Mais bon, j'ai compris.
T'as dit l'absence de Zagreb, mais je sais pas si t'as dit l'absence de Traoré aussi.
Ahmed Junior Traoré, oui, je l'ai dit, lésion à la cuisse. Donc ça fait deux absents importants, surtout alors, à Guerre qui aurait été un patron.
Un autre sujet que faudra que tu surveilles demain, c'est évidemment les supporters marseillais. On se souvient il y a quelques années de l'affaire du fameux match Atlético-Marseille, Atlético-Madrid face à l'OM, hein, rappelez-vous.
Exactement.
Libéré Santos.
Santos Miracle.
C'est vrai que les supporters marseillais ont très mauvaise réputation en Espagne. Ils seront 4000. Il y a eu des mesures assez drastiques qui leur sont imposées.
Les mesures, on les a sous les yeux, elles sont assez folles. Hein.
Contrôle d'identité. Bon, ce qui est normal, contrôle d'identité avec le nom sur le billet. On peut pas avoir une ceinture avec une boucle.
Feuille à quatre.
Pas de batterie de portable plus grande que le téléphone.
Disproportionnée.
Exactement. Il y a eu aussi des soucis pour faire rentrer un tambour par groupe. Là, vous savez je sais pas si vous le savez, mais en Espagne, avoir une tête de mort sur un drapeau, c'est interdit. Et en fait, les ultras, leur symbole, moi je suis pas spécialiste de ça, mais c'est pas une tête de mort, c'est la tête de Freddy, là, qui ressemble un peu à une tête de mort, Et c'est ce qui avait déclenché les incidents de l'Atlético. C'est-à-dire qu'au départ, la police espagnole ne voulait pas faire rentrer cette bâche.
Alors, la police espagnole, en général, avec notamment les ultras des pays étrangers dans les matchs de Coupe d'Europe, ils sont, comment dirais-je ?
Ils blaguent pas ?
Non, ils blaguent pas. Et ils ont tendance à sortir les matraques assez vite.
mais il y a une réunion entre l'OM et les groupes de supporters pour les sensibiliser là-dessus. Donc voilà, on sera vigilant. Il y a un lieu de rendez-vous, il y a un cortège. Donc on espère que tout ce beau monde sera bien entouré. Mais bon, 4000 supporters marseillais, c'est quand même l'un des gros déplacements de supporters cette saison, de supporters français.
Oui, parce que souvent il y a eu interdiction pour les supporters marseillais, c'est assez fréquent.
Exactement.
Merci Flo, demain tu
Merci
seras
les
avec
amis.
Nous, hein, bien sûr, avec Jean-Louis
avec
qui, entre Rennes et Madrid, a fait une petite pause.
On attend la crête, Jean-Louis, tout est OK.
Merci, très bien. T'es pas parti avant,
tout est calé.
Essayer de te faire un bon resto de viande.
Non, je préfère faire la fin.
Cabina Diasinueve, le stade est prêt, on est bien.
Allez,
on est bien. Ouais, c'est bon, t'inquiète.
Pars demain matin, comme ça, à midi, demain tu vas manger un peu.
T'inquiète pas pour moi.
Ciao les amis.
Justement, sur Madrid, je gère.
Je m'inquiète pour toi.
Ah c'est un ex-madrilène, Jean-Louis.
Je sais, mais ça fait longtemps, il a peut-être perdu les bonnes adresses.
Ça bouge pas à Madrid, t'inquiète.
Dans un instant, le PSG qui joue après-demain face à l'Atalanta, des bonnes nouvelles côté blessure et Luis Campos.
C'est vrai, je suis sponsor de l'Espagnol Barcelone.
Ah oui, Daniel. Ouais.
Je suis sponsor maillot.
Dani. C'est quoi Dani? C'est pas des yaourts?
Je sais pas. Non, Dani en Espagne, c'est quoi? Je sais pas. C'est Jean-Louis. Jean-Louis, tu reviens de Madrid.
Ah non, j'ai pas. Il y a 10 ans, il n'y avait pas.
Il y a 2 secondes, il fait genre le gars en Espagne.
Allez,
je
suis allé.
Franchement, là tu nous aurais régalé.
C'était des croquettes pour chiens.
Si tu savais ce qu'était Dani, tu nous aurais régalé.
C'est pas des croquettes pour chiens?
Croquettes pour chiens, Dani. Pas ou quoi?
Allez, conserve.
L'enquête est ouverte.
Conserve.
Ouais.
C'est quoi? C'est genre Butoni?
Ouais, je crois que j'ai l'impression.
Ouais, non, mais c'est quoi? Genre des petits pois?
Et Reynald Roclor? William Sorin.
Ouais, des petits pots, il y a des macros là, je vois.
L'enquête continue.
C'est des chipirons.
Le PSG au programme dans quelques secondes.
Bonne marque ou pas?
RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Daniel Riolo, Jean-Louis Tour et Kevin Diaz sont là. Je crois que c'est fini entre Guingamp et Montpellier, Xavier Grimaud en Ligue 2.
Oui. Ouais, c'est terminé avec la victoire de l'an d'avant Guingamp. 1-0 qui va se replacer dans le premier tiers du classement. Le but de Donatien Gomis à la 28e. Il y a du travail pour Montpellier. C'est vraiment pas terrible dans le jeu pour l'équipe de Zoumana Camara. Donc victoire de Guingamp ici face à la paillade.
Je le fais pas souvent, mais je vais déflorer un petit peu le c'était pas dans l'after.
Bah, on entend Daniel dire 30 cm c'est rien, 30 cm c'est rien. Donc
parce qu'on a décidé dans le c'était pas dans l'after cette semaine de parler athlé. Et puis on disait dans le c'était pas dans l'after, on parlait de Duplantis. Chacun a une morphologie pour l'athlé, tout le monde peut faire de l'athlé.
Ouais. Donc, mais on l'avait déjà fait, ça. Je l'avais déjà
mais
fait.
Sauf que Daniel, on n'a pas trouvé ce qu'il pourrait faire.
Enfin, si, je vous l'ai dit, mais vous êtes là, ce qui vous amuse, c'est de me dénigrer.
Franchement, faut écouter, c'était pas dans l'after, parce que Daniel n'a aucune notion de là où il peut être fort.
Aucune lucidité. Tu te vois champion de 800 mètres.
Bah, franchement, oui, tous les jours.
Le pire,
quoi?
Genre, t'as le physique de 800 mètres. Arrête un
mais
peu.
Fou, sûr,
c'est pire en
Kevin, il peut aller du 800, il peut aller du 800 marathon.
J'ai la morpho de Sébastien Coe.
Non, mais attends, en vrai, le plus drôle, c'est après, quand il nous a dit quand même 30 cm, c'est rien.
Mais
la
pierre, si on passe de 6
mètres à 6,30, c'est rien.
Mais par rapport à
ça, il y a quelqu'un
qui le fait.
Mais il y a personne qui l'a fait en 30 piges.
La perche, voyons.
Là, on va se fâcher avec Jean Galfionne, Renaud Lavillény.
Déjà qu'à cause de nous, directement, David Douillet s'est fâché avec Gressier.
Pourquoi? Oui, il y allait tout seul, David. Hein.
Qu'est-ce que j'ai à voir dans cette histoire? Moi, je vois rien savoir, moi, avec Gressier là-dessus.
Non, mais quand on faisait les after JO l'année dernière.
Oui, non, mais là, on n'a rien à voir là-dedans. Contre, David qui allait tout seul.
Je trouve que j'ai une petite idée.
Gilles Lassier, là, il a été bon hier.
On ne le citait pas dans l'after. En fait, tu devrais juste faire des digressions sur d'autres sports. Je pense que les auditeurs de l'after adoreraient.
On le fait souvent. C'est pour ça qu'on part de Saint-Maur souvent.
C'est vrai que c'est un
peu. Tu sais que Saint-Maur, les Italiens, ça a été battu par Strasbourg en Coupe de France.
Bien sûr, et c'était Chilavert dans les buts. Et mon ami et entraîneur adjoint a ses crampons de ce match-là.
La générosité, le grand Chilavert.
Magnifique.
Bon,
c'était pas dans l'after, là, on est d'accord. On est vraiment à l'antenne. Hein.
Ah, okay. Consommer, podcaster, et c'était pas dans l'after. Abonnez-vous déjà au podcast de l'after de façon générale.
Je pense que les championnats du monde à Tokyo, ça me saoule, parce qu'on peut pas voir bien, quoi.
Ah non, excellent horaire.
Si, c'est pas excellent horaire, voyons.
Si, c'est bien, c'est en journée.
Bah, moi, j'aime pas cet horaire.
Tu fais quoi?
Bah, en journée, tu joues au tennis? Ou tu fais de la marche?
Je travaille
ton 3000 mètres steeple, du coup.
Le soir, j'aime bien, par exemple, là.
Du coup, tu vas au stade là-bas?
On pourrait regarder et tout, hein.
Tu vas au stade là-bas?
Et en 1005, je te mets une dose, arrête de te la raconter.
Attends, on va organiser ça tout de suite. Parce que là, tu mets une dose à qui? Tu mets une dose à qui en 1005?
Toi, t'es 800 mètres.
Franchement, je pense qu'à cloche-pied, je dois pas être loin de toi.
Tu sais la hauteur de la barrière aux 3000 mètres aussi, parce que tu nous as quand même dit ça. Hein.
Non, je peux.
C'est 91
cm.
C'est 91
cm aussi. 91
cm. Mais je suis en courant.
Sans mettre le pied dessus. Toi, en revanche, tu tombes dans la rivière derrière.
Mais moi, j'ai jamais dit que
termines dans la rivière.
J'ai jamais dit que je pouvais faire du 3000 mètres au cible.
Je pense que déjà dans la rivière, faut pas que tu tombes, Daniel, parce que
franchement, c'est alors pour me dénigrer, vous êtes là, mais alors pour vous la raconter, vous avez des boulards. L'autre, il se voit faire 15 mètres lancer du poids.
Mais il est exceptionnel, lui.
Juste parce qu'il a des gros bras.
Jean-Louis, c'est Jablot. Jean-Louis, c'est Jablot.
Mais ça, il y a pas de problème. Le Jablot a une tête de Lituanien.
Mais moi, j'ai rien dit.
Il fait 2 mètres et il tue quelqu'un sur le côté.
Il renverse le truc. Il nous a assigné avec aplomb. C'était un champion de 1500 et 3000 mètres au cible. Et il va nous faire croire que c'est nous qui nous l'a raconté.
Il a dit qu'il me battait. Franchement, faut qu'on organise ça.
J'ai dit que la discipline.
Je pense que ça ferait des milliers de
vues.
Je pense que Daniel contre Diaz en 1500, ça fait des milliers de vues.
C'est possible, Kevin.
Non, la discipline dans laquelle je me voyais le plus, c'était le 1500. Quoi. C'est tout.
Luis Campos était donc dans Rotten sans flamme. On va écouter quelques extraits. Alors, il y a un extrait qui est le plus repris par les supporters du PSG ce soir. C'est la façon dont il est allé convaincre Luis Enrique. Et il explique que, il allait chez lui à Barcelone, qu'ils ont parlé, qu'il y a eu comme ça une espèce de, ça a matché, quoi. Il y a eu un crush, comme disent les jeunes.
Un match.
Et que donc, naturellement, il dit, c'était lui, c'était évident. Donc, je suis rentré à Paris, je l'ai dit à Nasser Al-Khelaifi, et hop, c'était lui. Nous, on va pas écouter ce morceau-là.
On est obligé de croire à cette version?
Ah non, bien sûr que non, t'es pas obligé d'y croire. Ah, oui, ça, je relaie
ici. Dès qu'on parle de Luis Enrique, t'as le visage qui se ferme.
Parce que moi, je connais la vérité.
Oh, punaise.
Après, les gens mentent, ils peuvent mentir à tout le monde.
Mais attends, là, on parle du début.
Ben, justement.
Là, toi, quand tu dis je connais la vérité, tu parles peut-être plus de la suite, des difficultés qu'il y a eu.
Non.
Quoi, au début, il y croyait pas, Luis Campos?
Ah, si, bien sûr que si, je t'ai pas dit.
Il
était parmi 9 autres entraîneurs. Son premier choix, c'était Arteta.
Oui, non, mais d'accord. Il a pas dit qu'il n'avait pas eu un autre choix. Il a dit que quand il a rencontré cette personne-là, il a vu la lumière.
C'était pas son premier choix, c'était Arteta.
Il a pas dit que c'était son premier choix.
Et c'était pas non plus son deuxième.
Il a pas dit que c'était son deuxième.
Alors, c'était qui le deuxième?
Nagelsmann.
Bon, en même temps, il a choisi le meilleur entraîneur de l'histoire du PSG, donc c'est bien.
Bon, écoutez.
J'ai entendu l'interview comme t'avais envie de l'entendre.
Écoutez, Luis Campos.
Il a dit sur les difficultés de la saison et ce à quoi il croyait ou pas.
Daniel, on va écouter Luis Campos.
Ouais.
Sur un sujet du
mais
moment.
Toi, tu lui as déjà parlé dans ta vie?
À Luis Campos?
Ouais.
Oui.
Ouais.
Deux fois.
De ces sujets-là?
Pas de Luis Enrique.
Quand tu auras fait comme moi, tu pourras parler.
Là, tu es en train de balancer, en fait.
Écoute, à un moment, il y a des choses, je ne veux plus les entendre, tu vois. À un moment, tu vois, on ne faut pas inventer des histoires. Voilà.
Sujet polémique du moment, le Ballon d'Or. Écoutez ce qu'il a dit sur Dembélé.
Il n'a pas été bon, là.
S'il n'est pas Ballon d'Or, c'est parce que les personnes qui ont voté au final, ils n'ont pas la compétence de voter pour le Ballon d'Or. Parce que les chiffres qu'il a, tout ce qu'il a gagné, c'est très fort. Ou il faut avoir un autre nom, pas Ousmane Dembélé, pour gagner le Ballon d'Or. Ça, c'est la question. Parce que je vous fais la question directe. Si ça s'appelle Léo Messi, si ça s'appelle Cristiano Ronaldo, avec les chiffres et tout ce qu'il a gagné, il n'a pas de discussion.
Bon, voilà.
Alors là, pour le coup, j'étais mais absolument pas d'accord avec lui. D'ailleurs, Eric Dimeco lui a dit que ça voudrait dire quoi? Que ceux qui voteraient pour Lamine Yamal, par exemple, seraient des gens qui connaissent rien au foot? Pas du tout, puisque Eric Dimeco avait cet avis-là. Au moins, j'aurais pas voté forcément Lamine Yamal, mais j'aurais plus voté, je l'ai déjà dit, je le répéterai pas, pour Achraf Hakimi, qui est dans le même club que Campos. Et je comprends absolument pas.
Le club a décidé de militer et de faire la promo de Dembélé.
Oui, non, mais ça c'est une chose, mais puisque Campos dit qu'il... Il dit, lui, ce qu'il disait toute l'après-midi, c'est « moi, je dis ce que je pense ». Donc, je peux croire qu'il dit ce qu'il pense, et donc qu'il pense que si tu votes pas pour Dembélé, tu connais rien au foot.
Il y a longtemps que je n'avais pas eu le Kevin naïf.
Non, c'est pas naïf. Mais moi, j'écoute les gens.
Est-ce que tu sais, mais Kevin...
J'écoute. Non, mais laisse-moi finir ma phrase, Daniel. Laisse-moi finir ma phrase, après tu vas me répondre. En tout cas, moi, j'écoute les gens. Il dit que ce qu'il pense, c'est que Dembélé doit absolument avoir le Ballon d'Or. Et parce que si c'était Cristiano Ronaldo ou Messi qui faisait le même genre de saison, on l'aurait donné. Mais Cristiano ou Messi, ils avaient le double de but. Mais bon, peu importe. Moi, je te dis que il y a aucun latéral qui a fait la saison qu'a fait Achraf Hakimi dans son équipe et il n'en a même pas évoqué le nom. Donc, moi, je comprends pas. Pour moi, t'es directeur sportif du Paris Saint-Germain, t'as énormément d'expérience, je sais même pas pourquoi tu rentres dans cette polémique du Ballon d'Or, dis que, comme il a dit un moment, et reste à ça, rien à faire du Ballon d'Or, on a gagné la Ligue des Champions et maintenant on prépare une nouvelle saison. On a 2-3 joueurs qui peuvent le gagner, voire 8 ou 9.
Je suis très surpris que tu ne comprennes pas.
Moi, je trouve que c'est une très très mauvaise communication.
Alors, justement, ce sont des entreprises de communication de pointe, tout est pesé,
sous-pesé. Le Real fait la même chose.
Et bah c'est lourdingue et c'est moche.
Tu as le droit de le penser. Je suis en train de t'expliquer. Je te dis même pas que c'est bien. Je te dis même pas que c'est bien. Alors moi, le débat Ballon d'Or, j'en ai rien à cirer. Moi, je donne à Dembélé ou à Hakimi, peu importe les deux. Je suis content, ils le méritent tous les deux. Le club a choisi Dembélé.
Bah,
le
oui,
club
c'est
a choisi
clair.
Dembélé. Et quand Hakimi s'était exprimé sur le sujet, ça a créé une tension. Choisir un Ballon d'Or pour un club, aujourd'hui, le PSG s'est mis à la page, au même titre que les grands clubs européens, dans la promotion de ce mouvement, de cette récompense-là. Le club a choisi dans sa communication, dans son désir d'obtention, parce que pour un club, c'est très important d'avoir le Ballon d'Or en son sein, pour le business, la promo, enfin tout ce que tu veux, ils ont choisi Dembélé.
Dès le lendemain de la finale de Ligue des Champions.
Exactement. Et Luis Campos est venu te dire ça. Aujourd'hui, Luis Campos, il est venu, il y avait des choses très intéressantes dans son interview, mais c'était un objet de communication pesé, sous-pesé.
Bon, en sachant aussi que les votes sont finis. Hein.
Oui, donc exactement. Bon,
ils sont allés au bout de la communication.
Et on saura, c'est le 22, lundi 22.
Et je vous l'ai dit la dernière fois, et évidemment qu'il y a des entreprises de lobbying sur le Ballon d'Or maintenant, qu'on influence par le biais des réseaux sociaux. Je veux dire, on le fait en politique, pourquoi on ne le ferait pas pour le Ballon d'Or? C'est devenu très important pour les clubs. Donc voilà, ne sois pas naïf
pour un club là-dessus. Je ne suis pas naïf, je ne suis pas du tout naïf en fait. Je trouve ça ridicule dans le sens où tu as loué le collectif depuis le début de la saison passée.
Je suis d'accord avec toi là-dessus, j'essaie d'expliquer comment fonctionnent les choses aujourd'hui.
Dans un instant.
Moi ce genre de choses en fait, on va avoir un avis là-dessus, ça ne m'intéresse même plus.
Voilà, on passe puisque
moi ce que je veux c'est comprendre pourquoi les clubs, les joueurs, les entraîneurs agissent d'une certaine façon. Moi c'est ça que je veux expliquer. Moi un avis sur c'est bien, c'est pas bien que Dembélé ou Yamal, j'en ai rien à cirer. Ça n'a aucun intérêt parce que c'est pas du football pour moi.
Dans un instant, Mercato.
Yamal, là, c'est très bien. C'est un joueur extraordinaire. Dembélé, magnifique. Super. Hakimi, génial. Super. On s'en fout.
À tout de suite dans l'after.
RMC, jusqu'à minuit. L'after foot.
Gilbert Bribois.
22h50, Daniel Riolo, Kevin Diaz et Jean-Louis Tour sont là. Donc, avant de parler du match d'après-demain contre l'Atalanta, finition sur Luis Campos, sur le Mercato, je ne veux pas écouter l'extrait parce qu'il est long. Mais en gros, il dit, cet été, c'est Luis Enrique qui a choisi la stratégie de Mercato. Donc, c'est-à-dire, en gros, pas de Mercato. Hein. Et il dit, mais cet hiver, on a les moyens, s'il y a besoin, de recruter. Donc, par exemple, Kvaratskhelia, l'an dernier, est venu au Mercato d'hiver. Donc, ça pourrait, pourquoi pas, arriver en fonction de l'évolution d'ici Noël. Et puis, il est revenu aussi sur le départ de Donnarumma et il a été assez clair sur la question. Je vous propose de l'écouter.
Ça a été difficile au début comprendre les exigences de Gigi Donnarumma. Même avant, il a été le premier joueur avec lequel on a parlé de rénovation la saison passée. Mais vite fait, on a compris que ça va être très difficile. Et vite fait, on a expliqué au coach que ça serait difficile. Et vite fait, le coach a dit, techniquement, pour moi, je peux profiter, peut-être avoir des solutions pour que l'équipe, avec le ballon, ça soit plus fort. Toi, la fin, toi, la volonté de manger, tu as mis les deux ensemble.
Ouais. Ouais, tout le monde était content à l'arrivée.
Et ça a donné le cas. En plus, c'est important de le dire aussi. Toujours quand on peut rendre le PSG plus français, on va le faire.
Bon, voilà. Donc, c'est clair. Ça plaisait plus à Lucien Riquet. Alors, quand il dit rénovation, c'est prolongation.
C'est le mot en portugais.
C'est pas l'erreur portugaise.
Ouais, c'est ça. C'est le mot en portugais, rénovation.
Parce que dans rénovation, d'accord.
Non, le mot pour prolongation en portugais d'un contrat de footballeur, c'est rénovation.
Ah, d'accord.
Voilà.
Très bien.
En espagnol aussi. Mais en tout cas, ça met en lumière un truc, là, les deux réponses de Luis Campos sur le mercato. C'est que donc, que c'est Luis Enrique qui a décidé cet été. C'est un truc qu'on a entendu aussi autour du PSG, plus que les autres fois. Et donc, certaines personnes au club n'étaient pas forcément favorables à un départ de Donnarumma. Mais il a gagné ce crédit-là grâce à la Ligue des Champions, qu'on lui laisse totalement les mains libres. Par contre, il le dit sur janvier, on pourra rectifier. Et je pense aussi que le crédit, il lui laisse là. Mais je suis pas sûr que sur tous les mercatos, Luis Enrique ait autant les mains libres aussi à l'avenir.
Après, ce que dit Campos, c'est assez clair. Il dit que dans un premier temps, ils ont essayé de le prolonger. Ils ont très vite vu que ça allait être compliqué de trouver un accord. Et donc, ils se sont engouffrés dans la brèche pour, pourquoi pas, faire un petit réajustement technico-tactique avec les qualités d'un gardien différent.
Moi, je mets juste un petit doute sur dans quel sens ça s'est fait. Parce que je pense quand même que Luis Enrique, ça lui plaisait bien de changer de gardien pour des histoires techniques.
Il a dit, on
ne
fait pas des efforts inconsidérés.
Voilà, je pense qu'il s'est vite engouffré dans la brèche.
Après, au vu des blessures, peut-être qu'on va en reparler.
Oui, alors j'ai des bonnes nouvelles là-dessus. Kvaratskhelia pourrait finalement être apte pour l'Atalanta. Et puis
on l'a dit hier soir, on a même fait la compo.
Et... un peu compo, on a reparlé, c'est pour ça.
On a fait la compo hier. Finalement, Daniel, la compo, elle a, à part Ramos qui va démarrer.
Que tu l'aies dit, parce que tu as une formation de médecin diligentée par Roland Courbis pendant des années, ça s'entend.
Mais non, mais Varane, mais là, c'est Campos qui le dit. On a vu ce qu'il avait.
Il a pris un coup.
Logiquement, voilà, bon, une éraflure.
Et puis, examen rassurant pour Beraldo, aucun ligament n'est touché. Donc, voilà.
Donc, résultat, à part Dembélé qui est le vrai manque devant par rapport au schéma habituel.
Doué.
Et doué, ouais.
Ah oui, doué, pardon. Oui, oui, c'est vrai, doué.
Non, mais c'est vrai qu'hier, oui, on a beaucoup fait alors que c'était Lee, un remplaçant et
doué, Beraldo. Oui, c'est important parce que tu as quand même un turnover.
De l'allure, si tu mets Barcola, Kvara, le seul manque pour moi, c'est Dembélé. Évidemment que doué, bien sûr, c'est.
Oui, d'autant que hier, comment il s'appelle, Ramos, c'était pas extraordinaire.
C'est plus le change éventuel dans l'équipe. C'est plus toujours la profondeur où il faut appuyer sur des jeunes et tout ça. Mais ça, visiblement, Campos l'a dit, ils veulent que ce soit comme ça. Ils ont envie que ce soit comme ça. De toute façon, qu'est-ce que tu vas aller dire au PSG cette année? Il y a peu d'équipes qui gagnent deux fois de suite, quoi qu'il en soit. Donc, ils vont faire leur aventure. Personne ne dira rien. Personne ne va les critiquer. Quand tu as gagné la Ligue des Champions, comme ils l'ont fait, personne ne va leur enlever.
Il y a des façons de se faire éliminer quand même.
Les façons de te faire éliminer, c'est en gros quand t'es un peu ridicule, machin. Du premier jour où l'idole de Kevin Diaz a mis le pied dans ce club, du premier jour, j'ai dit ce PSG ne sera plus ridicule avec ce coach-là.
De qui tu parles ?
De Lucien Riquet.
De l'idole de Kevin
Diaz. Lucien
Riquet. Non, j'avais pas compris.
Au moins ça, on peut s'en souvenir, puisqu'on n'arrive pas à se souvenir de tout ce que je dis et qu'on prend tout le temps ce dont on a envie. Voilà.
Ah, mais quand même. Ce qu'il dit,
ça n'arrivera pas.
Ce qu'il dit dans le sens où, bien sûr, les entraîneurs ne veulent pas changer leur effectif puisqu'ils ont gagné et que c'est une forme de confort. Tout le monde connaît leur méthode de travail.
Il veut un effectif réduit.
Il veut un effectif réduit. Mais tous les entraîneurs veulent un effectif réduit pour avoir le moins de gestion humaine à faire. Et c'est logique. On le comprend.
Je sais pas parce que Campos a essayé de nous revendre encore l'imprévisibilité. Ce qui est une énorme banane, puisque c'est à partir du moment où tu pouvais dire toutes les compos avant et que tu savais exactement quels allaient être les mouvements des joueurs, qu'ils se sont mis à tout cartonner et à tout gagner. Donc tout ça, c'est une énorme banane. Alors, aussi.
Sur l'imprévisibilité, ce qu'il dit, c'est au début de saison, tout le monde jouait à tous les postes, etc. Voilà. Et c'est Benjamin André, lors d'un match contre Lille, qui lui a dit « Oh, ton équipe, elle est incroyable, ça part dans tous les sens.
» Voilà. Et après, quand ça a arrêté de changer, qu'on a compris les compos, que machin et tout, le PSG s'est envolé.
Non, mais c'est pas
que. Mais il paraît que c'était préparé. Non, mais sauf que Campos, il n'était pas au courant que c'était préparé. Mais ils nous prennent pour des cons.
Non, mais Daniel.
En fait, on s'en fout. Là, l'important, c'est que t'es gagné.
T'abuses. Parce que forcément, tous les cuisiniers, tous les métiers, il faut bien faire des essais avant de trouver la bonne formule.
Ah, la bonne formule que toi, dès le mois de septembre, t'aurais trouvé.
Mais non.
T'aurais mis Kanginli.
Mais j'aurais jamais mis Dembélé en neuf, par exemple.
Bah merde alors, un gars comme toi, il aurait pas fait ça?
Mais non, mais toi non plus, personne n'aurait fait ça, arrête. Le mec, il mettait pas un pied devant l'autre devant le but, il l'a mis neuf dans une animation.
Évidemment. Mais ça, c'est un truc de génie, pas vrai?
Mais Ruiz, il y a plein de supporters parisiens, ils en voulaient plus.
Numéro 10 au milieu,
Ruiz, il y a plein de supporters parisiens qui ne voulaient
plus. On a découvert.
Il y a plein de supporters du Paris Saint-Germain qui ne voulaient plus de Ruiz dans l'effectif, même pas dans l'équipe. Dans l'effectif.
Est-ce que j'ai dit le contraire?
Tu me dis que tout le monde savait tout au début. Mais non, c'est pas vrai. Il y a eu un équilibre.
Une fois que la compo a été, qu'on a arrêté les dingueries, ça s'est bien passé.
Non, c'est pas les dingueries. Toi, t'appelles ça des dingueries. Moi, j'appelle ça des essais.
Pourquoi on les revoit plus?
Mais parce que parce que tu fais des essais.
Des essais.
T'as fait de la physique chimie au collège, comme tout le monde. T'as fait des essais. Une fois que t'as la bonne formule, t'arrêtes les essais.
Et quand tu fais les essais, que ça marche pas.
Mais quand ça marche.
Tu fais quoi?
Mais quand ça marche.
Là, en l'occurrence, ça marchait pas. Qu'est-ce que tu fais alors?
Mais il y a un moment où ça a marché.
Un truc hyper banal que tout le monde avait vu.
T'es d'accord qu'il y a un moment où ça a marché les essais et qu'il a trouvé la bonne formule.
Jean-Louis, excuse-moi, à quel moment
ça marche les essais? Retour.
Ah, non, mais c'est Dembélé l'exemple parfait. Mais pour le reste, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'essais.
Jean-Louis,
Mais si, l'animation, le latéral.
T'as fini, Jean-Louis?
Le latéral, tout le monde fait ça.
Mais non, le latéral, mais pas. Oui, mais avec Hakimi,
le milieu, tout le monde fait ça.
C'est comme au hockey.
T'es pas objectif.
C'est pas que je suis pas objectif, c'est que toi, t'es dans un délirium total de fan. Toi, t'es. On dirait un fan, on dirait les mecs à la sortie du concert de Mylène Farmer.
Non, c'est toi. C'est toi qui te ridiculises là-dessus.
Mais non.
Je t'explique un truc très simple.
Non, mais t'es un fan.
Il a fait des essais jusqu'à ce qu'il trouve la bonne forme.
Stop! Terminé. Deux petites infos PSG pour conclure.
Et il maintient l'histoire des essais. C'est complètement fou. Il n'y a pas eu un essai.
Dimanche, OM PSG. Figurez-vous que le PSG a décidé d'organiser ce qu'ils appellent une fan night.
Ouais.
Au Parc des Princes, diffusion du match, animation sur
comme
place.
J'ai dit hier, maintenant c'est que des events.
1500 places mises en vente cet après-midi. Elles ont trouvé preneur. Elles ont toutes été vendues en 12 minutes.
Parfait. Et voilà.
Voilà, donc tu sais, maintenant, le match, comme les matchs n'ont plus d'intérêt de Ligue 1, maintenant on fait le event à côté.
Et Jules Gilbert, mais le PSG quand même.
Non, mais même, et Jules Gilbert, si tu me permets, la politique du PSG sur le fait de ne pas recruter.
Ah, t'as pas recommencé.
Non, sur le fait, c'est autre chose. Sur le fait de ne pas recruter, ça veut dire qu'ils ont trouvé la bonne formule, les essais ont fonctionné, ils ont la bonne formule pour la Ligue des Champions, et en fait, en Ligue 1, on va vous faire jouer les U17, les U18. Et, de toute façon, on gagne, on fait match nul, ça n'a rien changé, parce qu'on aura nos 10-15 points à la fin.
Tu vois qu'on peut être lucide parfois. Mais le problème, c'est qu'ils les gagnent, ces matchs.
Je te dis.
Avec tout ce qu'on raconte depuis le début de saison, sur la prépa, sur les absents, etc.
Là, hier, tu as une équipe B, tu gagnes. En plus, si y a Péno sur Tovin, c'est pas donné. T'es tranquille.
Et puis dernière petite info, sachez que le Barça PSG se jouera bien en Camp Nou. C'est ce que dit Ziz, les médias espagnols. Donc, alors, après, c'est une question de jauge. Ce ne sera pas le Camp Nou à 100 000 personnes.
La jauge dont il parle à moyen terme des 50 000, ce n'est pas la jauge définitive.
Hein, non, ce sera bien plus.
C'est plus de 100 000.
Ouais. Okay.
Mais là, ça n'est pas fini.
C'est quoi, là, tu n'as pas la jauge, là, non?
Non, je n'ai pas la jauge.
Je crois que c'était 25. Hein. Je crois.
Désormais, je vais faire un truc, c'est que quand il y a des débats enflammés, un peu des one-to-one, un peu comme là, tu vois, entre Kevin et Daniel, donc je vais laisser vivre le truc. Et puis à un moment, on va mettre ça. Donc ça voudra dire fin de la baston. Parce que le kiff aussi, ça s'arrête.
Tu sais, c'est pas le son de ça. Hein.
Je sais, mais celui-là, il me plaît, parce que celui-là, Kevin, il est très haut qui sur place.
Non, mais ça, c'est pour lui, ça, c'est le defense.
Je crois que ça, c'est. Non, c'est ouais, mais defense, ça, c'est aussi au baseball, il y a ça. Au baseball,
c'est OK surtout qu'il y a ça.
Non, mais surtout,
je salue la naïveté de Gilbert après 20 ans d'after quand même, parce que tu penses qu'un truc peut les arrêter dans ces cas-là.
Le pire, c'est que quand il y a ça, en fait, ça donne envie d'y aller encore plus loin. En fait. Ça donne envie d'enlever les gants, ce truc-là.
Dans un instant, le conseil d'administration de la LFP, il y aurait pu y avoir des gants de boxe aussi. C'est toujours aussi chaud, les conseils d'administration. On va vous raconter parce qu'évidemment, RMC, c'est tout de ce qui s'est passé. À tout de suite dans l'after.
RMC, l'after foot.